Alors voilà, pour ce dimanche de Pentecôte, j'ai choisi, vous l'avez entendu, de ne pas vous parler de Pentecôte. Dommage, peut-être, pensent certains, j'étais justement venue pour en savoir un peu plus. Alors quand même, pour ne pas que vous soyez déçus, rapidement, qu'est-ce que Pentecôte ? Pentecôte, 50 jours après Pâques, la fête pour les chrétiens de la mort et de la résurrection de Jésus. Ce moment où l'Esprit de Dieu est envoyé sur les apôtres pour qu'ils aillent transmettre la bonne nouvelle dans le monde entier, à leur tour accompagnés de l'Esprit de Dieu. Et traditionnellement, nous choisissons cette fête, ce jour-là, pour que les jeunes puissent s'engager parce que nous croyons qu'à leur tour, ils reçoivent ce souffle pour aller dans le monde. Oui ? Ça vous va ? Sans compter. Aimer en vérité, aimer sans barrière, jusqu'au bout. Cela pourrait être le titre du passage biblique de l'évangéliste Luc, entendu à l'instant. Une femme, prostituée, donc doublement exclue à l'époque, entre chez un pharisien nommé Simon, un homme de loi, respecté, reconnu, chez qui Jésus prend son repas avec quelques autres. Et là, dans le sillage de son entrée troublante, elle agit contre toute attente. Elle se place derrière Jésus, elle pleure tellement qu'elle en inonde ses pieds, nous dit le texte, puis elle se lâche les cheveux, elle les essuie avec ses cheveux lâchés, scandale à cette époque d'avoir les cheveux lâchés. Avant d'embrasser les pieds de Jésus et d'y répandre du parfum contenu dans un très beau vase. Oh, la honte. On dirait ça peut-être aujourd'hui. En effet, l'attitude de cette femme envers Jésus est très choquante. Une moins que rien, c'est la façon dont elle est considérée. Pratique ce geste qui ressemble à une pratique habituelle à cette époque que l'on appelle l'onction. La tradition en Israël était d'oindre le roi, le prêtre ou le prophète avec de l'huile pour les consacrer dans leur fonction, les reconnaître. Il en était de même quand on accueillait un hôte chez soi. Ces onctions se pratiquaient sur la tête, en signe de bénédiction. Et le parfum était dilué dans de l'huile. Cette femme reproduit ce geste d'accueil, de reconnaissance pour Jésus, avec de l'huile parfumée, mais elle pratique le geste sur les pieds. Cela vous rappelle peut-être une autre histoire des évangiles, dans l'évangile de Jean, Cyril, avec les pieds. Merci Cyril. Le lavement des pieds, Cyril, voilà, spécialiste du lavement des pieds dans l'évangile de Jean. Alors, le lavement des pieds, mais c'est très positif ce que je dis, hein, c'est pas du tout pour me moquer. Jésus lave les pieds de ses disciples dans l'évangile de Jean. C'est un moment qui remplace le dernier repas raconté dans les autres évangiles. Pour Jésus, c'est le signe qu'il devient le serviteur de tous et qu'il nous invite chacun à vivre de cette manière. Et dans notre histoire, avant d'oindre les pieds du maître, souvenez-vous, la femme les essuie avec ses cheveux et les embrasse. Tout son corps, nié, rejeté, bafoué, se donne ici sans retenue, dans la démesure et même la sensualité, pour ce Jésus qui semble la troubler, au point de risquer finalement le peu de dignité qu'on veut bien encore lui laisser. Elle a choisi le risque, elle a choisi la confiance et elle a eu raison. Jésus l'accueille et l'envoie dans la paix. Dans l'évangile de Marc, le même événement est raconté et Jésus en conclut « Je vous le dis, c'est la vérité, partout où on annoncera la bonne nouvelle dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait. » Oui, cette petite histoire est une très bonne nouvelle. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, aujourd'hui, en te confiant à Dieu, tombeur de mur en Jésus-Christ, tout est possible. Tout est ouvert. Ouvre-lui ton cœur. Parle-lui. Sois toi-même. Celui qui se rit des apparences et des codes te donnera la vie. La femme au parfum est donc sauvée. Elle est envoyée, elle est apaisée. Mais finalement, quelle a donc été sa foi ? Elle n'a rien dit. Elle n'a rien fait pour les autres. Elle s'est inclinée, elle a pleuré. Elle a montré de l'amour pour celui qui sauve. Elle est allée jusqu'au bout et sans compter. Elle est passée par-dessus son exclusion, les jugements, le regard des autres quand elle a dû traverser cette maison pour être elle-même face à Dieu. Voici ce que la réforme protestante a essayé humblement d'annoncer il y a tout juste 500 ans. En 1517, un moine allemand, Martin Luther, choisit, contre l'autorité, de donner toute sa place à l'amour gratuit de Dieu pour chacun. Et au péril de sa vie, il prêche la grâce première de Dieu. Dieu nous sauve par amour sans rien attendre de nous en retour. Il vient vers nous le premier, son amour est offert. Je partage avec vous un verset que notre ami René, qui a accompagné les enfants toute cette année et qui, pour des raisons de santé, ne peut pas être parmi nous ce matin. Un verset qu'il aime beaucoup et qui annonce cela, dans la lettre aux Éphésiens. « Vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous. C'est Dieu qui vous sauve. » La femme au parfum nous offre cette bonne nouvelle. Abandonne tes barrières, diffuse ton parfum particulier et la vie jaillira. Cela est vrai pour chacun. C'est vrai pour vous, les jeunes. Oui, il est important, en cours, avec les amis, peut-être aussi avec la famille, de rentrer dans des chemins que l'on souhaite pour vous, parfois au risque de votre être intime et profond. Cela est vrai pour nous tous ici présents. Dans le monde du travail, des loisirs, avec nos amis, peut-être même aussi notre famille, où il est attendu de nous tel ou tel choix. En Jésus-Christ, pas d'attente, pas de code, pas de barrière. Fini la culpabilité. Nous sommes précieux, nous sommes lumineux, vrais tels que nous sommes. Alors comment laisser place à ce nous-mêmes ? Comme pour cette femme qui ose contre toute attente exhaler son parfum, c'est dans la confiance et l'abandon au souffle divin que nous devenons pleinement nous-mêmes. Peut-être certains connaissent François Garagnon, qui a écrit entre autres « Jade et les mystères sacrés de la vie ». Je vous invite à écouter un petit extrait. À l'école, la maîtresse n'arrête pas de me dire « Jade, si tu veux, tu peux. Il suffit de vouloir pour pouvoir. » Et tout plein de variantes du même genre. Eh bien, je vais vous dire, la maîtresse, elle se gourre complètement. Elle se trompe parce que dans la vie, l'important, ce n'est pas la volonté, c'est l'abandon. Je savais que cela vous ferait sourire, vous vous dites « ça y est, Jade a inventé la philosophie du hamac et des orteils en éventail ». Mais quand je dis « abandon », cela ne consiste pas à se croiser les pouces en attendant que ça passe, ça c'est plutôt du fatalisme, ou de la lâcheté, ou de la résignation. Moi je parle de l'abandon à Dieu. Renoncer à paraître pour être. Dans les mains de Dieu, sembler se perdre dans la confiance, c'est gagner son être profond. Ainsi, ce très beau verset du prophète Ésaïe, entendu tout à l'heure, parle d'une parole de Dieu efficace, qui transforme, comme la pluie et la neige ne tombent pas au sol sans effet. Cette parole irrigue, nourrit et fait pousser. Croyant, nous confessons que nous avons toujours raison de choisir la confiance. Si nous l'accueillons, Dieu s'offre à chacun pour nous rendre lumineux. Bien. Alors, depuis tout à l'heure, je fais mon discours sur l'être profond. Et puis, en même temps, vous, je vous ai demandé de vous tenir droit, d'avancer lentement, de parler distinctement. C'est ça ? Alors, quoi ? Quelques larmes et une toilette rapide ne pourraient pas suffire ? Bien sûr que si. Alexia, Maxime, Elodie, Benjamin, Jade, Swan et Laure, vous êtes aimés comme vous êtes, comme cela, pour rien, en pyjama tout décoiffé ou en tenue chic bien apprêtée, sans rien dire ni rien prouver, c'est votre être profond, votre cœur, mais aussi votre corps, votre parfum particulier, vos rires et vos larmes, vos réussites, vos échecs, c'est comme cela et avec tout cela que vous êtes aimés, sans être jugés. Mais ce matin, vous avez témoigné, vous allez le faire encore tout à l'heure, parce que nous avons besoin en communauté les uns des autres. Pour ce savoir précieux, pour se le redire, pour l'entendre à nouveau encore et encore. C'est la force de la communauté, un lieu de résonance de la bonne nouvelle. Vos paroles et vos sourires sont des petites fleurs sur nos chemins. Vous nous encouragez ce matin, vous illuminez notre vie. En même temps, il y a aussi des moments, il y aura des moments où vous ne sentirez plus cette énergie, cet élan, où le chemin vous paraîtra difficile, où il vous semblera que Dieu est honteusement silencieux face au mal, à la souffrance. Il y aura des moments où la colère sera la plus forte. Quand cela arrive, prenez le temps de vous écouter. Il est toujours juste de se révolter contre ceux qui défigurent la vie. Et ces temps habitent toute existence. Ils jalonnent le chemin dans la confiance et l'espérance. Dans vos découragements et vos doutes, n'oubliez pas que Dieu continue de vous porter et de vous accompagner. Alors, elle n'est pas belle la vie ? Peut-être certains d'entre vous connaissent la fondation John Bost en Dordogne, du nom de ce pasteur protestant qui, avec son épouse Eugénie, en 1848, crée un lieu pour accueillir au nom de son maître ceux que tous repoussent. Ainsi, des personnes qui présentent un handicap ou des personnes laissées pour compte par la société vivent dans un lieu ouvert, sans murs ni barrières, trouvant des fleurs sur leur chemin, selon les mots du pasteur. Les trois pasteurs en poste actuellement à la Fondation ont édité un livre profond qui recueille les témoignages des résidents et des soignants. Voici un extrait de vie recueilli par le pasteur Joël Dahan. « Pourquoi tu pleures ?» demande Aurore à l'infirmière qui venait de craquer. Car il y a des moments dans ces métiers, il faut que ça sorte. Des temps dans lesquels les professionnels se redisent qu'ils sont aussi des personnes qui s'attachent, qui aiment, qui fatiguent, qui se remettent en question, membres d'une communauté si fragile et pourtant une humanité pleine de ressources. Elle n'est pas belle la vie, continue Aurore, assise dans son fauteuil roulant, très peu mobile et possédant un vocabulaire très réduit. Si, Aurore, elle est belle la vie. Mais depuis la nuit des temps, des hommes et des femmes sont amenés à penser que la vie n'est plus belle. La Bible fait une large place à toutes ces expressions très humaines et légitimes devant l'insupportable. Or, Dieu n'envoie pas les épreuves. Il ne vient pas non plus effacer toute la souffrance de la terre. Mais il choisit de se révéler d'abord dans ces situations décrites comme des situations de non-vie et de non-sens. Car la vie résiste, et même malmenée. Elle invite des femmes et des hommes à continuer à se battre pour chercher ensemble un mieux-être et rappeler que la dignité, même abîmée, ne peut jamais se perdre. Elle n'est pas belle, la vie. Oui, elle est belle. Pour une femme au parfum, pour un Martin Luther, pour une Aurore et son infirmière, pour chacun de nous, chacun de vous, les jeunes, pour Céline, pour toutes les fleurs que nous sommes, la vie est belle. Elle est belle et abondante. Pour chacune, chacun, pour chaque frère et sœur en humanité, ici et ailleurs, aujourd'hui et toujours. Alléluia. Amen.